Nous attaquons le quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1960. Le programme, les colonies françaises qui accèdent à l'indépendance, le procès du siècle en Suisse, Sophia Loren qui s'est fait voler ses bijoux et une deux chevaux qui fait le tour du monde.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1960.
1960 est la grande année de décolonisation française. Entre le 1er janvier et le 28 novembre, 14 territoires français deviennent des pays indépendants. Les territoires de l'ancienne Afrique occidentale française, c'est-à-dire le Sénégal, le Togo, le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta, qui deviendra le Burkina Faso, mais aussi Madagascar, le Bénin, le Niger, le Tchad, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon et le Cameroun. En fouinant dans nos archives, j'ai trouvé cette bande magnétique jamais diffusée. L'envoyé spécial d'Europe 1 au Sénégal recueille le sentiment des Français.
En 1830, il y avait déjà quelqu'un de votre famille qui habitait Dakar. Oui. Donc pour vous, Dakar, c'est votre pays.
Ah, pour moi, oui.
Et alors maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce pays? Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir encore y vivre longtemps?
Ben, c'est difficile à dire. Pour l'instant, je m'y plais énormément.
C'est la grande question. Est-ce que le Sénégal reste néanmoins un Eldorado pour les Français?
Un jeune homme à 23 ans, il a lu des livres, il est un peu romantique. Il a terminé ses obligations militaires, il est disponible, comme on dit, et il se sent attiré par les tropiques, la vie, pas facile, mais enfin la vie autre qu'en France. Est-ce que ce jeune homme a encore un avenir au Sénégal et à Dakar? Est-ce qu'il pourrait y vivre, s'y marier, fonder une famille, comme votre arrière-grand-mère a fondé une famille?
Non, plus à notre époque, c'est plus possible maintenant. Parce qu'il y a beaucoup trop d'Africains qui se spécialisent dans tous les corps de métier. C'est beaucoup trop difficile pour un Français. Il vaut mieux à ce moment-là qu'il trouve une situation en France. Pour ça, c'est normal d'ailleurs.
C'est-à-dire que vous considérez comme une survivante?
Peut-être, oui. C'est-à-dire qu'il y a un certain atavisme en moi. J'adore revenir à Dakar.
C'est le 20 août 1960 que le Sénégal accède à son indépendance. Son premier président est Léopold Sédar Senghor. Et les Français de Dakar ne savent toujours pas sur quel pied danser.
Vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir?
Je suis plutôt pessimiste.
Vous croyez qu'un jour ou l'autre, ça va être le billet de retour?
Oui, c'est certainement. Du fait que mon mari ne pourra certainement pas rester ici très très longtemps encore, du fait qu'il y a toujours l'africanisation, qu'il y a des Africains, ce qui est tout à fait normal, puisque ce sont quand même des gars qui ont l'instruction, qui sont allés en France, qui reviennent à leur pays, et qui prennent la place que nous occupons, c'est tout à fait normal. Mais je le conçois très mal, j'avoue.
Alors pour un jeune ménage, vous lui conseillez pas du tout de venir s'installer ici?
Non,
pour tenter l'aventure.
C'est vraiment tenter l'aventure. Ils peuvent le tenter si ça leur fait plaisir. Mais d'ailleurs, un jeune ménage qui arrivera à Dakar à notre époque ne pourra pas y rester.
Pourquoi?
Mais parce que ils ne gagneront pas assez. La vie est excessivement chère ici. Quand je pense que nous payons une salade d'avion 110 francs.
Qu'est-ce que vous appelez une salade d'avion?
Une salade d'avion, c'est-à-dire qu'on reçoit des cajots de salade par avion. On vous passe une salade, vous repartez avec une salade, vous avez dépensé 110 francs, ce qui fait 220 francs métro. C'est quand même, pour une salade, hein, c'est un peu cher. Vous trouvez pas?
Pour ce Français né au Sénégal, cadre dans le domaine pétrolier, le pays cherche une main-d'œuvre qualifié pour s'émanciper.
Bien, d'une façon générale sur l'Afrique, je pense que les jeunes ont beaucoup d'avenir si ce sont des techniciens. Ils sont des gens qui apportent quelque chose qui manque ici, précisément, c'est-à-dire des éléments techniques. Maintenant, s'ils n'ont aucune formation particulière, je pense qu'il vaut mieux leur déconseiller de venir dans un pays qui a surtout besoin d'une aide extérieure, ayant déjà une certaine formation universitaire.
Oui, c'est-à-dire que le Dakar, l'AOF, le Sénégal, l'Afrique romantique du monsieur qui venait, qui restait 2 ans et qui repartait fortune faite, c'est terminé.
Bien sûr.
C'est l'Afrique de papa.
Oui, ça c'est terminé, ça c'est certain.
Dans la foulée, cette décolonisation de l'Afrique française amène une grande question. Qu'en sera-t-il de l'Algérie ? L'Algérie vient de connaître un début d'année meurtrier avec la semaine des barricades. Des partisans de l'Algérie française ont manifesté violemment, faisant 147 blessés et 22 morts. Le 4 novembre 1960, le général de Gaulle évoque sans détour une république algérienne qui existera un jour. Dans un café de Bab El Oued, des pieds noirs sont interrogés sur leurs sentiments par rapport à cette annonce du général.
Et si on vous donnait la garantie que certains droits en tant que Français seraient conservés dans la nouvelle Algérie algérienne ?
À ce moment-là, ça serait un peu différent, mais moi particulièrement, ça m'étonnerait par exemple.
Vous n'avez pas tellement confiance ?
Non, pour être franc, non.
Je veux pas l'Algérie algérienne.
Ben, je peux dire qu'une chose, c'est que je voudrais plutôt que ça soit l'Algérie française, c'est tout.
Moi, j'ai confiance, j'ai toujours confiance en le général de Gaulle. Et j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose.
Ben, je voudrais qu'elle soit française automatiquement.
L'Algérie algérienne, c'est un slogan qu'on a fabriqué à Paris. C'est pas une émanation, c'est pas quelque chose qui est sorti d'ici. Depuis les bancs de l'école, on nous a appris que nos ancêtres étaient les Gaulois et... Puis c'est très difficile à plus admettre que maintenant nos ancêtres ne sont plus les Gaulois, même si on s'appelle Hernandez, même si on s'appelle Papalardo et même si on s'appelle Mohamed. C'est dans notre sang.
En décembre 1960, à l'opposé des pieds noirs, les Algériens qui soutiennent le FLN sont dans les rues d'Alger. Ils ne veulent pas de cette Algérie algérienne proposée par De Gaulle. Ils veulent une indépendance pleine et entière. La répression de cette manifestation est sanglante. 260 manifestants tués par l'armée et la police française. Quelques jours plus tard, le 19 décembre 1960, l'ONU vote la résolution 1573 qui reconnaît au peuple algérien son droit à la libre détermination et à l'indépendance. La route vers l'indépendance est ouverte. Il faudra attendre encore 2 ans et de nombreux morts en Algérie et en France.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1960.
Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Ooh, what a girl. Eyes that twinkle and shine. You're 16. You're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Oh, well, you're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful, and you're mine.
C'était Johnny Burnett avec You're 16.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1960.
Le 18 janvier 1960, à Genève, en Suisse, s'ouvre le procès du siècle. 200 témoins, 20 jours d'audience, 250 reporters de toute l'Europe et même un journaliste d'Amérique. Et pourquoi toute cette passion ? Eh bien parce qu'il s'agit de juger pour un meurtre un membre de la haute société genevoise, Pierre Jacou, avocat, bel homme, très brillant, qui a réussi aussi bien en affaires qu'en politique. Il est accusé d'avoir tué le père du nouveau petit ami de sa maîtresse, Linda Beau, dite Poupette. Ils ont passé cette année à recouler ensemble, elle l'a quitté. Et maintenant, Jacou se retrouve accusé du meurtre de son beau-père.
Peu avant 23h, le 1er mai 1958,
au moment où elle rentre dans sa maison de Plan-les-Ouates dans la banlieue de Genève. Madame Charles Zumbach entend des coups de feu et la voix de son mari crier « Au secours !» Elle court, affolée. Charles Zumbach gît dans une mare de sang, coup de poignard, coup de revolver. On trouvera dans le jardin des Zumbach un bouton d'imperméable. Justement, il en manque un, identique à un imperméable de Jacou. L'autopsie du cadavre donne à penser que l'assassin s'est servi d'un poignard à lame courbe. Justement, il y en a un chez Jacou, sur lequel les experts examineront de microscopiques taches de sang.
L'avocat dément. Il se dit innocent et humilié. Il tente plusieurs fois de se suicider. Et pourtant, il a un atout dans sa manche. Son ex-maîtresse, la belle poupette, ne croit pas qu'il soit coupable.
Comment croyez-vous que le monde vous a vu ? Comme une femme légère ?
Oui, j'ai l'impression que le monde m'a vu comme une femme légère, qui n'avait qu'une idée. C'était de faire des conquêtes, des hommes mariés en particulier.
Ça n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai.
Pour beaucoup de gens, Linda Bou, qui croient que Jacou est coupable, et surtout en particulier pour des femmes, vous êtes tout de même celle à cause de qui tout est arrivé. Et pensez-vous qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dans ce jugement ?
Je n'irai pas jusqu'à dire aucune parcelle de vérité, parce que je pense que le fait même que j'ai existé est un des effets.
C'est tout ?
De ce drame, autrement, je pense que je peux dire que rien n'est arrivé par ma faute. Je le dis d'autant mieux que, étant donné que j'ai la conviction que Pierre Jacou n'est pas coupable...
Le notable encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Au tribunal, c'est la folie. Tout le monde veut suivre cette affaire qui égratigne la bonne société. Notre reporter qui grenouille aux marches du palais trouve un bon client pour illustrer cette frénésie.
Monsieur, je vous ai vu tout à l'heure à la tribune du public. Vous êtes un des rares qui a réussi à entrer. À quelle heure étiez-vous là ce matin devant le palais ?
Bien, écoutez, je suis venu très tôt ce matin. Je suis venu à 6 heures du matin.
Et il faisait froid, je pense.
Oui, il faisait froid. Il y avait de la neige qui restait au bord de la route. Nous avons vu les camions qui passaient pour déblayer, pour que tout soit propre pour l'ouverture de ce procès.
Et à quelle heure est-ce qu'on vous a ouvert finalement ?
On nous a ouvert les portes à 8h15.
Alors, que pensez-vous du procès auquel vous avez assisté ?
Eh bien, écoutez, c'est un procès qui m'intéresse énormément. Du fait que Maître Floriot plaide la cause de M. Jacou, c'est un très fort personnage. Il parle magnifiquement bien. Et c'est surtout ça, pour prendre une leçon d'éloquence.
Le ténor parisien Maître Floriot, qui défendra Jacou, sera l'autre attraction du procès. C'est parti. Pierre Jacou entre dans le box. Il est méconnaissable.
Le Pierre Jacou que j'ai vu entrer tout à l'heure, soutenu par son avocat et par un gendarme, le Pierre Jacou que j'ai vu entrer tout à l'heure à la cour d'assises, n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce n'est plus l'avocat brillant, l'homme qui avait réussi, c'est maintenant un malade, prostré, affaibli. L'homme politique devant qui tout pliait, qui avait contribué à tant de carrières, l'ancien bâtonnier, comparait aujourd'hui devant ses pairs. Et le drame humain est celui de cet être orgueilleux, renfermé, qui voit s'étaler non seulement devant le public, mais devant les millions de lecteurs représentés par une centaine d'envoyés spéciaux des grands journaux, sa vie la plus secrète et ses secrets les plus intimes.
Le procès est très long. Et le chroniqueur judiciaire d'Europe numéro 1, Frédéric Potcher, n'en loupe pas une miette.
Je crois que c'est un obsédé. Je crois que c'est un homme qui a traversé une crise passionnelle extrêmement grave, extrêmement aiguë. Un des psychiatres a dit qu'il était ambivalent, qu'il était incapable de choisir entre deux points la décision qu'il devait prendre. Eh bien, je crois qu'il n'a pas été capable de décider. Et s'il est vrai qu'il a commis ce crime, à mon avis, il l'a commis dans un état de démence.
Fidèle à sa réputation, l'avocat parisien René Floriot s'attaque à chaque détail du dossier. Et il instille le doute au travers de coups d'éclat.
Ils ont exhumé de leur dossier les étranges voisins de la Villa Zumbach. Car Zumbach, qui devait périr sous les balles de l'assassin, Zumbach avait loué un garage dans son jardin. Or, un soir, Zumbach pénétrant dans son garage, dans le garage loué, découvre des outils non équivoques. Ses locataires sont des voleurs d'auto. Alors, la défense s'étonne, pourquoi M. Zumbach n'a-t-elle pas dénoncé ces voleurs ? Et Maître Floriot, qui se lève à son tour et qui est le seul à Genève à plaider en robe, insiste, est-ce que les membres du gang ont des alibis ? L'inspecteur de police interrogé fait une réponse peu catégorique. Et c'est sur ces questions que se croisent les premières répliques entre le ministère public et la défense. Ce soir donc, la défense semble avoir marqué un premier point en évoquant l'inquiétante présence dans le propre jardin de la Villa Zumbach d'un gang de voleurs.
Après 3 semaines de procès, Maître Floriot délivre, comme à son habitude, une plaidoirie agressive. Et il termine en demandant l'acquittement de Pierre Jacquot. Et la salle applaudit, figurez-vous. Verdict, l'ancien avocat est reconnu coupable, mais il n'écope que de 7 ans de prison, une peine étonnamment clémente. Jusqu'à son décès, Pierre Jacquot ne cessera de marteler qu'il est innocent.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1960.
En 1960, les films les plus commentés de l'année sont européens, comme le chef-d'œuvre italien La Dolce Vita de Federico Fellini. Anita Ekberg flâne dans une nuit romaine aux côtés du beau Marcello Mastroianni et au détour d'une ruelle, elle se baigne dans la fontaine de Trevi en appelant son amour à la rejoindre.
Marcello ! Marcello !
Marcello Mastroianni, lui, incarne un journaliste mondain accro à la jet set et au paparazzi. Une vie oisive et de débauche qui, en 1960, fait sacrément scandale. Mais au Festival de Cannes, c'est la consécration.
Le jury du 13e Festival international du film de Cannes, à l'unanimité, décerne la Palme d'Or au film de Federico Fellini, La Dolce Vita, Italie.
Bien, ma joie et ma gratitude de recevoir ce prix tient surtout à ceci. Que le jury a encouragé le cinéma non conformiste, celui qui va droit à son chemin et qui ne sacrifie ni au snobisme intellectuel ni à la facilité d'un certain public. Et ça, c'est pour moi une grande satisfaction de découvrir qu'un festival, et surtout celui de Cannes, n'est ni le domaine de la facilité, ni le triomphe de l'orthodoxie bien pensante, ni la soumission aux opinions tout fait.
20 ans plus tard, Marcello Mastroianni racontera sur Europe 1 les coulisses de sa présence au casting de la Dolce Vita. Fellini l'avait convoqué près de Rome, aux portes de la mer.
Tu vois, Marcello, mon producteur, il a choisi un homme pour le rôle principal de la Dolce Vita. Paul Newman. Mais moi, il n'y avait pas de chevaux, mec. Chevaux ou une gueule quelconque. Toi.
Ça commence bien. Et moi, j'ai dit, je suis content. Et pour me donner un certain temps, j'ai dit, moi, j'aimerais bien, je suis très curieux de lire le scénario. Et en donnant un coup d'œil à mon avocat. Il a dit, mais naturellement. Et il appelait son écrivain, Ennio Flaiano, qui était un petit peu plus loin. Il a dit, Ennio, viens, apporte le scénario pour Mastroianni parce qu'il veut lire. Et cet écrivain, il est arrivé, mais il n'y avait rien. Il y avait un dessin typique de Fellini, il y avait un monsieur qui nageait,
oui,
avec un sexe énorme qui arrivait jusqu'au fond de la mer, et autour de cet immense sexe, il y avait des sirènes qui flottaient, qui dansaient autour de cet énorme sexe. Ouais, moi, je suis devenu rouge, très gêné, qu'est-ce que je pouvais dire? Rester au jeu, dire, moi, c'est très intéressant, on peut signer tout de suite, monsieur l'avocat, voilà. Ça, c'était l'unique scénario que moi j'ai reçu de Fellini.
En France, comme chez Fellini, les scénarios des cinéastes de la Nouvelle Vague ne dépassent pas 3 pages. Comme À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qui sort aussi cette année-là, et dont le scénario laisse une large part d'improvisation aux acteurs.
Est-ce que tu la trouves plus jolie que moi?
Dès que tu as peur et que tu es étonné, les deux en même temps, t'as un drôle de reflet dans les yeux.
Et alors?
Je voudrais recoucher avec toi, à cause de ce reflet.
Michel,
je peux pisser dans le lavabo.
La Nouvelle Vague offre un cinéma du réel, cru, qui déroute les téléspectateurs.
J'ai rien contre eux, mais enfin, j'ai vu jouer À bout de souffle et je trouve qu'on s'efforce beaucoup de salir les choses et les gens inutilement.
J'aime bien ces films.
Pourquoi?
Oh, parce qu'ils sont très sensuels.
Trop de sensualité.
Oui, moi j'aime ça les jeunes.
La Nouvelle Vague, j'y crois pas tellement, puisque
de metteurs en scène d'une autre école ont fait des films un peu semblables à ceux que vous appelez la nouvelle vague maintenant.
Et c'est peut-être même un peu terrible, c'est que je connais beaucoup de jeunes, et parmi tous les jeunes que je connais, j'en trouve certains parmi les personnages de ce film.
C'est épouvantable, c'est grotesque,
c'est
et c'est horrible. Et c'est surtout d'un très mauvais exemple.
Parfois ils sont un peu cyniques, un peu trop cyniques.
Dans l'ensemble ils sont assez cyniques.
C'était dégoûtant. Ils n'apportent absolument rien.
C'est une tendance nouvelle dans le cinéma comme dans la littérature.
J'aurais aimé beaucoup voir certains, mais mes parents m'interdisent.
Je pense que la morale bourgeoise qui régit tout actuellement est pas du tout en rapport avec les problèmes actuels et que c'est chaque film de ce genre-là, sans être toujours des bons films, envoie un coup et détruit un peu cette morale.
Oh, il cherche en général à choquer le bourgeois, quoi. C'est tout comme d'habitude.
Un autre film choque le bourgeois en 1960. Zazie dans le métro, adaptation cinématographique du livre de Raymond Queneau. Cette œuvre paraissait pourtant inadaptable. Queneau inventant toutes sortes de mots, jouant avec la langue française, etc. Le pitch, je vous le raconte, la petite Zazie monte à Paris pour passer quelques jours chez son oncle, Philippe Noiret. Et Zazie ne cesse de dire des gros mots. Elle s'amuse à faire enrager les adultes.
Écoute-moi ça, Albertine. Tu vois comment ça résonne, les mouflettes, à cet âge? On se demande pourquoi on les envoie à l'école.
Moi, j'irai à l'école jusqu'à 65 ans.
Jusqu'à 65 ans?
Oui, institutrice.
C'est pas un mauvais métier. Il y a la retraite.
Oh, t'as ton cul. Moi, c'est pas pour la retraite.
Mais alors, pourquoi que tu veux l'être institutrice?
Pour faire chier les mômes. C'est quand mon âge dans 10 ans, dans 20 ans, dans 5 ans, dans 1000 ans. Toujours des gosses à emmerder. Genre les vaches comme t'es avec elles, genre faut lécher le parquet, genre faut manger l'éponge du tableau noir, genre enfoncerai les compas dans le derrière, genre botterai les fesses, parce que j'aurai des bottes en hiver, avec de grands éperons pour leur larder la peau du derche.
Zazie, avec son pull rouge, sa frange et ses dents du bonheur, est une vedette de l'année 1960. C'est Catherine de Mongeau qui joue le rôle de Zazie. Europe numéro 1 la rencontre en octobre 1960 et on comprend vite pourquoi Louis Malle l'a repérée. Mais quelle gouaille! Quelle répartie!
Catherine de Mongeau, elle a 10 ans, son portrait sur tous les murs de Paris, elle est Zazie sur l'écran. Catherine de Mongeau, quel effet ça vous fait de voir votre portrait en affiche immense sur les murs de Paris? Est-ce que ça vous fait de l'effet?
J'en ai vu qu'une jusqu'ici.
Et est-ce que les gens vous reconnaissent depuis qu'il y a votre portrait sur les murs?
Peut-être, je sais pas moi. D'abord, il faut me dire tu n'as.
Alors dites-moi tu aussi.
Je fais ça.
Tes parents, est-ce que ils ont... C'est eux qui t'ont envoyé pour te présenter pour faire le film de Monsieur Malle?
Ah là 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 là! Toujours la même question.
Oui, bah, c'est une question importante. Tu sais, c'est tout de même assez rare qu'une petite fille de 10 ans aille se présenter toute seule.
Mais j'y suis pas allée toute seule.
Et bah, alors donc, cette question est importante. Il faut que tu me répondes.
C'est maman qui m'a accompagnée.
Et il ne t'a pas dit mal pourquoi il t'avait choisi? Est-ce que c'est parce que tu étais la meilleure ou parce que les autres étaient les plus mauvaises?
Je sais pas, moi.
Ah, parce qu'un jour, tu as répondu à un journaliste que c'est parce que les autres étaient rudement mauvaises. C'est pour ça que je t'ai posé la question.
Quoi?
Oui.
C'est pas vrai, c'est lui qui l'a inventé, tu sais, journaliste, hein.
Oui, t'es contre?
Bah, il pose des questions, puis après, c'est pour mettre autre chose. When I see my baby, what do I see? Poetry. Poetry in motion.
She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying gracefully. Oh. C'était Poetry in Motion de Johnny Tillotson.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1960.
En 1960, la comédienne italienne Sophia Loren a 26 ans et elle est au sommet de sa gloire. Elle est belle, elle est charismatique, elle est volcanique. C'est une star internationale. En 1960, elle tourne dans 5 films et à chaque fois, elle est la vedette principale. Comme dans La paysanne aux pieds nus, où elle partage l'affiche avec un tout jeune acteur français, Jean-Paul Belmondo.
Et tu ne fumes pas non plus ?
Non.
Il y a une fille dans ta vie ?
Non.
Vraiment ? Et tu n'en as jamais eu ?
Non.
Comment peux-tu vivre sans femme ? Un homme normal ne peut pas.
Si je n'étais pas capable de consentir un sacrifice, je serais comme les autres, comme Mariano, comme mon père, comme eux tous.
Ça n'a rien à voir. On peut se priver de tant de choses, mais certainement pas d'amour.
Sophia Loren parcourt le monde pour ses tournages. Et au printemps 1960, elle s'arrête à Londres pour le tournage du film Les Dessous de la Millionnaire. La vedette habite seule une villa luxueuse. Le 28 mai 1960, elle file à l'aéroport pour aller chercher son mari. Et à son retour, elle découvre que ses bijoux ont disparu. Il y en avait pour 3 millions de nouveaux francs.
Ce soir, les Anglais sont vexés. Ils ont appris que leur invisible Scotland Yard avait demandé la coopération du FBI, la police fédérale américaine, pour les aider à retrouver les bijoux volés de Sophia Loren. Laisser la porte ouverte pour quelques secondes, c'est inviter le désastre. Et partir en vacances dans certains quartiers, c'est presque un acte de courage et en tout cas un acte de foi. D'ailleurs, les assurances britanniques, les plus perfectionnées du monde, vous assurent pour quelques livres annuels contre cet inconvénient majeur de la vie en société. Pour le moment, l'enquête sur les bijoux de Sophia Loren piétine. Scotland Yard a demandé au FBI de lui donner les empreintes de dizaines d'acteurs, de metteurs en scène d'Hollywood pour cerner les suspects. Car le chalet où habite Sophia Loren, près des studios d'Elstree, a été habité par des dizaines d'artistes, de metteurs en scène et de techniciens de cinéma qui tous y ont laissé leur empreinte un peu partout.
Scotland Yard écume le quartier des joailliers de Londres, en vain. La police britannique piétine.
À Brighton, un suspect dénoncé a été relâché. La police a également questionné, comme il se doit, les resellers et les vieux voleurs de bijoux bien connus, attitrés, si l'on peut dire. Finalement, il faut bien rappeler qu'en Angleterre, les agents de police ne sont pas armés. Il suffit donc à un cambrioleur d'avoir une bonne foulée pour courir des risques qu'il hésiterait à prendre s'il se sentait menacé dans sa vie même. Ici Dominique Henry, qui vous a parlé de l'ombre, Europe numéro 1.
Peu confiante en la police anglaise, Sophia Loren tient une conférence de presse. Elle offre une récompense de 280 000 nouveaux francs à qui l'aidera à retrouver ses bijoux. Mais elle ne les retrouvera jamais, à l'exception de deux petites broches sans valeur que la police finira par repêcher au fond de la Tamise. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, la vedette française Yves Montand tourne dans Le Milliardaire, un film musical où il passe son temps à offrir des bijoux. Sa partenaire de jeu n'est autre que la star mondiale, Marilyn Monroe.
Comment est-ce de travailler avec Marilyn Monroe ?
Écoutez, c'est difficile de vous expliquer Marilyn Monroe. D'abord, on n'explique pas Marilyn Monroe, on la voit, c'est beaucoup plus agréable, je crois. J'ai fait une petite déclaration, on m'a demandé de faire une petite déclaration sur Marilyn Monroe dans un journal de cinéma. Je dis à peu près ceci, je cite de mémoire. Je disais que c'était formidable que un seul prénom, Marilyn, soit connu dans le monde entier vraiment d'une façon colossale. Et surtout, ce qui me plaisait en elle, ce qui nous plaisait en elle, c'était son côté. C'était une vraie femme avec un regard d'enfant.
Pour ce tournage, Montand a traversé l'Atlantique avec sa femme, Simone Signoret. Mais la comédienne française a la mauvaise idée de rentrer en France avant la fin du tournage.
Simone Signoret, pourquoi vous êtes rentrée en France sans Yves Montand, votre mari ?
Je suis rentrée en France parce que le pauvre, il reprend son film demain et qu'il a encore au moins pour 5 ou 6 semaines de tournage.
Effectivement. Sauf qu'après le tournage, Montand choisit de poursuivre l'aventure américaine. Il reste là-bas 3 mois de plus. Et quand il rentre à Paris, lui qui était titré comédien de gauche, est prié de choisir. Où la vie est-elle la plus agréable ? Chez les Américains ou à Moscou ?
Premièrement, je voudrais vous dire une chose très, très honnêtement. Nous avons trop été bien reçus, aussi bien dans un pays comme dans l'autre, par la population, par le peuple soviétique et par les gens d'Amérique, que je serais très maladroit de ma part un jour demain de faire une réflexion quelconque là-dessus. Alors ça, je veux que ce soit
exemple,
bien clair.
Et par exemple, qu'est-ce qui vous a frappé en URSS, ce qui vous a frappé aux USA?
Ce qui m'a frappé en URSS, c'est le côté constructif, c'est le côté réussite dans des jours meilleurs, etc. Et ce qui me frappe surtout aux États-Unis, c'est le côté où tout est là. Tout est là sous la main. Et
la facilité.
Tout est là, la facilité, un plaisir de vivre, vraiment. Et puis un côté surtout aussi extraordinaire, c'est qu'on n'a pas l'impression de se sentir un étranger, n'est-ce pas?
Alors qu'en URSS, il y a moins de facilité, à votre avis, au point de vue aisance de vivre?
On ne peut pas comparer. Ils sont en train de construire quelque chose qu'on peut approuver ou désapprouver, n'est-ce pas, selon quel point on se place. On ne peut pas juger comme ça, n'est-ce pas? Personnellement, je reconnais volontiers que les États-Unis, pour l'instant, sont au minimum 20 ans à l'avance sur l'Union soviétique. Ça, c'est vrai.
Il faut quand même que je vous dise que si mon temps est resté aux États-Unis, ça n'est pas seulement pour mesurer les bienfaits du capitalisme. Il est resté pour Marilyn Monroe, avec laquelle il a eu une romance, qui aurait débuté au Beverly Hills Hotel, où ils avaient les bungalows 20 et 21. Ça rapproche. Cette romance ne sera révélée au grand public que bien des années plus tard.
Que t'es drôle à regarder, t'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler, c'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage, de t'avouer que j'en ai marre de toi, et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage. Et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu, que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour? Et aliéner ma vie entière. Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau, non? Tu te laisses aller, tu te laisses aller.
C'était Tu te laisses aller de Charles Aznavour.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1960.
En janvier 1960, Jean-Claude Baudot et Jacques Séguéla, 26 ans, viennent d'accomplir un exploit inédit. Ils ont fait le tour du monde à bord d'une 2 chevaux AZLP.
5 continents, 8 déserts, 50 pays, 250 km par jour, 350 nuits à la belle étoile, 2247 heures au volant de cette voiture et 100 000 km parcourus. Voilà le premier tour du monde d'une voiture française.
L'idée a germé quand le père de Jacques Séguéla a félicité son rejeton pour son diplôme de pharmacien en lui offrant une 2 chevaux. Grâce à cette Citroën, les rêves d'aventure des deux étudiants devenaient possibles. Ils ont modifié la voiture pour l'expédition. Ils ont installé une penderie hermétique, une cachette sous le volant pour dissimuler l'argent et un coffre plat avec une arme de secours. Les deux amis ont tiré un bouquin de leur voyage, La Terre en rond. Et les Français découvrent alors que Jacques Séguéla, le plus expansif des deux, a un bon sens de la formule.
C'est une grande aventure qui a quand même englouti 5 ans de notre vie.
Car pour faire un voyage comme ça, eh bien, il faut compter 2 ans pour le préparer, 1 an pour le réaliser et 2 ans pour payer ses dettes.
Ce voyage a coûté la bagatelle de 8 millions de francs aux 2 étudiants. Mais ça n'est pas en hôtel luxueux hein, que la somme a été engloutie.
Nous avons couché dehors pendant 350 nuits, nous n'avions même pas eu assez d'argent pour nous offrir une tente. Nous faisions notre cuisine nous-mêmes, nous ne mangeons que très rarement au restaurant et toujours dans le restaurant de meilleur marché. Et nous avons fait tous les petits métiers, depuis guide touristique à Benares jusqu'à mannequin dans une vitrine de Tokyo, en passant par plongeur, cireur de chaussures aux États-Unis, etc.
Ce qui leur a coûté cher dans cette aventure, ce sont les bateaux pour passer d'un continent à l'autre et le matériel de cinéma pour filmer leur épopée.
Votre meilleur souvenir, alors que vous avez parlé de vos difficultés?
Je crois que c'est le Sahara. C'est le Sahara parce que c'est le pays du monde où l'on est le mieux reçu, et ça, je crois que c'est parce qu'il n'y a personne.
Votre plus mauvais souvenir?
Les Incas. Les Incas, nous les avons découverts à la table d'un ministre péruvien, tous les ministres se ressemblent, et à la fin du repas, il nous a dit avec un ton ministériel, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir dans mon pays? Ah, on lui a dit ça, monsieur le ministre, c'est formidable, nous aimerions voir des Incas. Il n'y a pas de problème, nous dit-il, suivez-moi. Et nous partons tout de suite dans un petit village perdu de la cordillère. Et là, nous découvrons les Incas. Ils avaient des ponchos multicolores, ils fumaient du maté et de la marijuana, c'est extraordinaire. Et un petit détail anachronique, ils étaient en train d'écouter les Platters qui chantaient en espagnol sur une machine à disques américaine. Alors nous retournons vers notre ami, nous lui disons, ah non, non, nous ce que nous aurions voulu, c'était voir des Incas, mais des vrais. Et il nous regarde, il met ses mains sur ses hanches, il nous dit, mais vous savez, moi, je suis allé à Paris, il y a 2 ans, j'y suis resté 6 mois, et je n'ai pas demandé à voir des Gaulois.
Une bonne leçon de vie, dont Séguéla avait bien besoin. Écoutez ce qu'il déclare sur ce plateau de télé, au retour de son tour du monde.
Bon, alors quel conseil vous donneriez à tous ceux qui veulent partir faire un tour du monde?
Oh, mais c'est surtout, au milieu de tous ces bagages, de ne pas oublier d'emporter le bagage le plus important de tous, une femme. Parce que
c'était le plus encombrant.
La vie d'un explorateur moderne commence tous les matins par 1 heure de lessive, puis 1 heure de cuisine, puis 1 heure de vaisselle, puis 1 heure de couture. Et ça, je crois vraiment que c'est le métier d'une femme.
Ah oui, ça, on vous le conseille. Emporter une femme.
La 2 chevaux AZLP sera conservée en l'état au musée automobile de la Sarthe. Jean-Claude Baudot deviendra l'un des plus importants collectionneurs de jouets anciens du monde. Et Jacques Séguéla deviendra le publicitaire français le plus célèbre.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
C'était Bourville avec Salade de fruits. en 1960, qui conclut notre quatrième épisode. Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski m'ont aidé à bâtir cette émission. La suite de notre exploration de l'année 1960 dans le cinquième épisode dont De Lattre raconte une année.
Retrouvez On De Lattre raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.